Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
Bonjour à toutes et à tous. Au menu de cette émission, un éditorial consacré à un nouveau verbe que je propose. Une belle rencontre avec Robert Spisichino, le sujet qui fâche, avec Julien Damon et Véronique Fayet, comment réduire la pauvreté urbaine.
Urbanité. L'édito.
Soyons clairs et nets, je propose d'inventer un verbe ni plus ni moins, qui manque à notre langue, c'est du moins mon avis. Le verbe aménisé, que signifie-t-il ? Rendre amène, c'est-à-dire aimable, agréable, hospitalière, accueillant, toute ville et tout particulièrement ses rues. Celles-ci sont les antichambres des logements. Je sors de chez moi et j'entre en ville. Parfois, j'ai l'impression d'être un nageur qui, du bout du pied, prend la température de la houle avant d'épouser le mouvement des vagues. À d'autres occasions, je plonge sans hésitation dans le courant des piétons, adopte son rythme, avant d'assurer ma propre vitesse et d'effectuer un véritable slalom, doublant les uns, évitant les autres. Je me faufile entre des potelets et une corbeille à détritus. Le meublier urbain est souvent disposé contre les piétons. Je me demande toujours qui décide de leur emplacement, bien souvent imbécile. Une camionnette est grimpée sur le trottoir et gêne les piétons qui devraient marcher sur elle comme si de rien n'était. Domestiquer l'automobiliste et son véhicule s'avère bien difficile. Il est vrai que la voiture est commode, à nous d'en réduire l'usage avec la livraison à domicile, le télétravail volontaire, le covoiturage, le retour des commerces en ville ou dans les bourgs, la généralisation de l'autostop, les taxis collectifs, le minibus municipal à la demande, davantage d'arcades pour protéger les piétons de la pluie et du soleil, comme à Bologne, qui en possède 54 km en Italie, et de chemins pour promeneurs et cyclistes dans les campagnes urbanisées. Rejetons la géométrie disciplinaire de l'architecture de l'urbanisme moderne, les situationnistes, une poignée de jeunes contestataires aux idées radicales dans les années 1950, pratiquent, au nom de la psychogéographie, la dérive urbaine et le détournement des publicités, en attendant de construire des situations dans New Babylon, espace dédié aux jeux, aux rencontres, aux ambiances. Jane Jacobs, en 1961, plaide pour un renouveau des rues et des grandes villes américaines. René Schönbrodt crée en 1969 l'atelier de recherche et d'action urbaine à Bruxelles, puis invente les promenades urbaines en 1972 et élabore une poignée d'années plus tard un code de la rue. Françoise Chouet examine les usages de la rue au cours des siècles dans Espacement, qu'elle publie en 1969. Pierre Sansot élabore une poétique de la ville en 1973. Jean-François Goyard, dont Pas à pas, essaie sur le cheminement quotidien en milieu urbain, qu'il publie en 1979, revient sur le comment et le pourquoi de nos parcours. Il propose une appréhension sensible de nos itinéraires urbains. David Le Breton fait l'éloge de la marche en 2000, et puis plus tard, Jérémy Gobert théorise une philosophie du marcheur en 2021. Les idées ne manquent pas pour inventer des lieux urbains créatifs, inventifs, aimables, appréciés des citadins, quel que soit leur âge, leur sexe, leur attente et leurs activités. Stimulons nos six sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher et le mouvement, avec de subtils ménagements du verbe ménager qui signifie prendre soin, tout en cultivant l'imprévu, la turbulence, la transgression. Les élus manquent cruellement d'audace et d'inventivité. Ils adoptent les modèles standards au lieu de privilégier le cas par cas, le sur-mesure, le fait avec les habitants, petits et grands. L'intervention des artistes est d'une valeur sans prix. Tag, graffiti, installation, mime, théâtre de rue, danse, que sais-je encore, démultiplient les usages de la rue et la singularisent, tout comme la présence des sportifs ordinaires, joggeurs, skateurs, marathoniens. Tout diagnostic urbain et paysager réclame des approches inédites d'observation et de restitution, telles les cartographies sensibles et chronotopiques des lieux, de ces lieux urbains selon leur temporalité et évidemment leur genre. Oui, aménisée est véritablement un verbe qui manque à notre vocabulaire. Adoptons-le. Toute langue est vivante, elle s'enrichit de mots venus d'ailleurs ou de vieux termes oubliés qui renaissent et de néologismes que nous fabriquons parfois sans le vouloir. L'actuelle pandémie, par exemple, banalise les mots distanciels et présentiels. À quand le bouche à oreille valorisant le verbe aménisé ?
Urbanité. La belle rencontre.
Robert Spisichino, ingénieur urbaniste, spécialiste de projets territoriaux, ex-président de Karma Gonesse, alternative à Europa City, qui, après un long combat citoyen, a été annulé par le président de la République le 7 novembre 2019, sans toutefois abandonner la construction d'une gare en plein champ. Suite aux émeutes urbaines de 2007 à Villiers-le-Bel, les autorités nationales et locales se préoccupent de créer des emplois dans les quartiers dits sensibles et soutiennent un projet d'un centre commercial qui se veut aussi un centre de loisirs installé sur 80 hectares du triangle de Gonesse, qui en compte 280. Ce triangle est entre les deux aéroports du Bourget et de Roissy-Charles de Gaulle. En 2012, quatre agences d'urbanisme et d'architectes imaginent Europa City. L'équipe lauréate est Big, qui porte bien son nom, parce que c'est Big is Beautiful, qui mérite d'être discuté, et qui produit un projet absolument démesuré. Il obtient le label Grand Paris, remis par le ministre de la Ville de l'époque, Maurice Leroy, et le président de Paris Métropole, Patrick Braouzac. En décembre 2014, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, déclare qu'il s'agit d'un projet majeur. Alors lui, il a pas mal gaffé, hein, ce Laurent Fabius, on va peut-être y revenir. Le consortium franco-chinois Wandam Group et Imochan communique sur son méga-projet tandis que l'opposition s'organise. Occupation des terres, pétitions, manifestations, pique-niques, contre-projets, le combat semble être celui de David contre Goliath. Pourtant, l'opinion penche du côté du pot de terre qui finit par gagner, du moins une première manche. Karma, qui signifie « coopération pour une ambition rurale métropolitaine et agricole », voit le jour et énonce ces quatre principes que Robert va commenter pour nous. Le premier principe, repenser l'intégration de la nature et de l'agriculture dans le développement urbain. Le deuxième principe, construire la transition écologique agricole à partir d'une agriculture bio pour une alimentation de qualité. Troisième principe, privilégier les villes polycentriques. Et quatrième principe, évidemment, activer la démocratie locale et stimuler les initiatives des habitants. Robert, que doit-on penser de Karma ?
D'abord, il faut rappeler que ces principes sont issus de l'histoire et sont ancrés dans la réalité actuelle. Ils sont issus de l'histoire parce que, pour ceux qui ne connaîtraient pas le triangle de Gonesse, c'est, comme ça a été dit, 680 hectares au début de terres agricoles qui nourrissaient Paris et qui étaient le pain de Gonesse était sous le pain nourricier de Paris que des charrettes apportaient tous les matins à Paris. La ceinture maraîchère du Grand Paris était ancrée dans les territoires de Gonesse et de Villiers-le-Bel, de tout ce qui compose aujourd'hui le triangle de Gonesse. Les bourgs des environs, Villiers-le-Bel, Goussainville, Gonesse, était un lieu préféré des Parisiens pour la promenade, pour aller à la campagne. Ça, c'est l'histoire. Et à un certain moment, comme tu l'as rappelé, il y a eu une espèce d'évidence que 680 hectares entre Roissy et le Bourget, eh ben, ça devait être urbanisé au maximum. Et que donc, outre Europa City, on allait faire de grands centres hôteliers, on allait faire la nouvelle défense. La nouvelle défense figure toujours dans le programme de la zone d'aménagement concerté qui est toujours actuelle sur ce site. Et donc, Karma a été très sensible à l'histoire de ce territoire. Et en même temps, il n'est pas besoin d'être grand clair pour voir à quel point, par exemple, la crise sanitaire a mis en évidence l'importance de la souveraineté alimentaire, a considéré que les circuits courts, par exemple, faisaient partie d'une évidence, et a considéré que, effectivement, les initiatives locales, la dynamisation des territoires partaient des gens qui le composent. Et c'est sur tout ça que Karma s'est appuyé. Karma, c'est d'abord un récit, d'ailleurs. C'est d'abord le récit d'une aventure. Puisque, en fait, à un certain moment, face à Europa City, il y a eu Les associations environnementales, prenant l'exemple sur Notre-Dame-des-Landes, ont dit « il nous faut un contre-projet ». Ce contre-projet, nous avons pris l'occasion de l'appel à projet la métropole du Inventons la métropole du Grand Paris, qui portait sur 18 hectares à côté de la future gare. Et en fait, nous, on a répondu de manière transgressive sur 680 hectares à vocation agricole et non pas bâti quelque chose. Et nous avons décrit ce que pouvaient être les mutations agroécologiques de ce territoire et comment il était un outil de transformation profonde, à la fois culturelle, économique et sociale par rapport au territoire.
Chaque année, c'est précisé sur le site de Karma, chaque année en Île-de-France, il y a 1400 hectares de terres arables qui sont imperméabilisés par l'urbanisation.
Tout à fait.
Et le triangle de Gonesse n'était pas épargné, évidemment.
Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, je crois que petit à petit est en train de s'imposer le fait que l'artificialisation, que les terres agricoles, notamment, ne sont pas simplement des terrains à bâtir. Ça a été longtemps considéré par ça comme des terrains à bâtir par des aménageurs dont j'ai fait partie à un certain moment. En revanche, maintenant, il faut les considérer à la fois comme un outil fondamental pour la lutte contre le réchauffement climatique et évidemment comme un outil de transformation de notre système agroalimentaire. Et c'est ça qu'il faut mettre en évidence. C'est une source de richesse. C'est une source de richesse à la fois pour mettre en mouvement la société vers d'autres types de développement. Parce que l'alimentation, ça parle à tout le monde. Et l'alimentation pour tous, l'alimentation durable aujourd'hui, c'est une évidence. C'est une évidence qui mobilise les associations, qui mobilise, que ce soit les quartiers populaires ou les quartiers aisés, tout le monde est sensible aux questions alimentaires.
Qui sont des questions de santé.
Qui sont des questions de relation à la santé, mais pas seulement. Pas seulement, puisque c'est aussi, pour beaucoup, c'est des questions de subsistance. La question de la précarité alimentaire est une question terrible actuellement. Nous le vivons sur le terrain.
La sociologie du terrain est une sociologie plutôt d'une population assez précaire.
Voilà.
Qui vit difficilement.
Voilà. Il y a des quartiers, tout le monde se souvient des émeutes de Villiers-le-Bel, etc. Et si on ne fait pas un projet avec ceux qui en sont les premiers bénéficiaires, ceux qui cherchent des emplois sur place, ceux qui ont besoin de se donner un avenir, comment peuvent-ils avoir un avenir autour de la terre et autour des productions de la terre? Nous sommes excessivement surpris par la rapidité des évolutions qui peuvent s'opérer en la matière. On a fait des expériences avec les jeunes. Il y a eu un film là-dessus qui s'appelle « 12 France ». Et on a vu comment des jeunes qui, au début, disaient « Oh, c'est formidable, Europa City, on va faire du ski, etc. », petit à petit, se sont aperçus que Europa City et ses grands machins, c'était une façon de les marginaliser, de les traiter en consommateurs, et qu'il y avait d'autres horizons qui s'ouvraient à eux. Et aujourd'hui, Karma se veut évidemment un outil au service de la transition agroécologique, mais beaucoup plus que ça, un outil pour un autre type de développement de ce territoire, qui était le territoire qui a un beau nom, qui s'appelle le Pays de France, c'est un nom qui est à la fois géographique, géologique et historique. Et le Pays de France, qui comprend à la fois l'est du Val-d'Oise, le nord de la Seine-Saint-Denis et une toute petite partie de la Seine-et-Marne, ben ce pays de France, il a un avenir pour devenir un territoire démonstrateur de ce que peut être une mutation agroalimentaire considérable.
Et alors aujourd'hui, quelle est la part des agriculteurs dans ce triangle de Gonesse Qu'est-ce qu'ils font et est-ce qu'ils sont partie prenante du projet Karma?
Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a une douzaine d'agriculteurs qui exploitent le triangle. Ils l'exploitent sur le modèle, ils l'ont exploité pour la plupart sur le modèle ancien d'une agriculture tournée vers l'exportation, d'une agriculture fondée sur la production céréalière, tournée vers l'exploitation. On fait ça, on donne ça à une coopérative qui se débrouille pour l'envoyer au plus offrant. Et donc, ils ont été au début, certains ne sont pas attachés au territoire, puisque en fait, le jeu des mutations internes fait que, comme il y a eu, il faut le comprendre, des incertitudes majeures, ils s'attendaient à être expropriés d'un jour au lendemain, quoi. Hein. Donc, le raisonnement qui a prévalu à la Chambre d'agriculture et chez un certain nombre d'entre eux, ça a été comment toucher le plus possible des expropriations qui vont avoir lieu. Voilà. Et ça a été le raisonnement économique majeur. Et beaucoup ont fait leur avenir en dehors de ce territoire. Ça n'est pas le cas de tous. Et effectivement, nous avons quelques agriculteurs, pas beaucoup pour le moment, mais le mouvement est lancé. Et c'est pour ça que nous voulons faire des démonstrations de ce qui se passe et qu'on peut vivre très bien en faisant un autre type d'agriculture. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui se sont lancés dans l'exploitation du bio. Il y a de très jolies histoires de gens qui étaient contre une jeune femme qui était contrôleuse de gestion et qui a repris l'exploitation de son père pour faire du maraîchage bio. D'autres jolies histoires sur la relation entre de nouvelles formes d'exploitation en matière de plantes médicinales. Et donc, il y a un mouvement qui est en marche. Je dois dire que, pour le moment, tant que nous ne pouvons pas, nous et tous ceux qui nous soutiennent au niveau à la fois associatif, économique, puisque nous sommes profondément ancrés dans l'économie sociale et solidaire, si nous ne pouvons pas montrer aux gens voilà ce qui se passe, voilà comment ça marche, si nous ne pouvons pas faire ce travail de sensibilisation, de formation avec des choses à montrer sur le terrain, c'est plus difficile d'entamer cette conversion agricole et alimentaire que nous souhaitons. Mais elle est en route. Elle est en route.
Et sur le site hein, très bien fait de Karma, il est mentionné quand même d'autres exemples dans le monde où ça marche. Pas forcément au rythme qu'on l'espérait, mais à Milan, par exemple, à Barcelone, à Montréal. Il y a là des sols qui sont sacralisés, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les bâtir, les artificialiser. Oui. Et puis on les transforme en terre agricole de très grande qualité. Alors qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui en France ?
On ne peut pas dire en France, parce que dans certaines métropoles, on peut considérer que le mouvement est lancé vers une conversion des modèles d'exploitation et du système alimentaire. Il y a ce qu'on appelle des projets alimentaires territoriaux, il y a ce qu'on appelle des programmes des projets de coopération territoriaux, économiques, qui sont basés sur les questions alimentaires. Donc ça bouge vraiment un peu partout. On fait des relations de plus en plus fréquentes entre agriculture urbaine et agriculture périurbaine. Agriculture urbaine, souvent d'ailleurs implantée dans des quartiers populaires, et qui sensibilise à l'intérêt qu'il y a à préserver d'autres formes, à préserver les terres et à exploiter d'autres formes d'agriculture. Et donc, qu'est-ce qui bloque ? Je crois qu'il faut parler de culture des élus en la matière, de culture des élus et un peu, pas beaucoup, parfois, du monde économique également. Parce que les élus, surtout dans le Grand Roissy, avait un modèle économique qui était, nous, on est entre Roissy, on est à côté de Roissy et du Bourget, il nous faut des grandes firmes internationales qui vont venir s'implanter ici, et tout ça a vocation à remplir l'ensemble de l'espace et à procurer des emplois. Non. Eh bien, le nombre d'emplois, pour donner un seul chiffre, il y a 6% des habitants de Gonesse qui travaillent à Roissy. La difficulté du travail sur la plateforme de Roissy est considérable, et pas simplement à cause des problèmes de transport. Donc il y a cette espèce de blocage d'un certain nombre d'élus qui n'est pas celui qui a été rencontré à Barcelone, à Liège, où il se passe des choses tout à fait intéressantes, et même en Rennes, également, à Dijon également, où on trouve, et dans d'autres métropoles. Bordeaux est en train de préparer ses mutations territoriales. J'insiste sur le fait qu'il faut que ça se passe pas simplement sur des questions de la mutation de l'exploitation des 680 hectares, mais sur une approche vraiment systémique qui fait ça dans un esprit d'économie circulaire, en s'appuyant sur des dispositifs de formation, de recherche, de mobilisation de l'ensemble des associations citoyennes pour en faire des acteurs de cette transition agroécologique, etc., etc. Et c'est ça que nous mettons en place aujourd'hui. C'est un projet de territoire extrêmement ambitieux qui se veut être un modèle normal, je dirais, pour l'Île-de-France. Pourquoi à Barcelone on réussit, à Barcelone, à Montréal et ailleurs on réussit, à Milan et à Liège on réussit des choses, et l'Île-de-France, qui est une grande région agricole, ne le réussirait pas également?
Merci beaucoup, Robert. Alors, je vais changer le slogan, hein, c'est pas le combat continu, c'est la transition continue. Merci à toi.
Madame la misère, écoutez le vacarme que font vos gens, le dos voûté, la langue au pas. Quand ils sont assoiffés, ils se saoulent de larmes. Quand ils ne pleurent pas, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des enragés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois. Régler son compte à Monseigneur éphéméride qui a pris leur jeunesse et l'a mise en séride. Quand il ne leur restait que ça. Madame la misère, écoutez le tumulte qui monte des bas-fonds comme un dernier convoi, traînant des mots d'amour, avalant des insultes et tenant par la main leurs colères adultes afin de ne les perdre pas. Ce sont des enragés qui dérangent l'histoire et qui mettent du sang sur les chiffres parfois, comme si l'on devait toucher du doigt pour croire qu'un peuple heureux, rôtant tout seul dans sa mangeoire, ou bien une tête de roi. Madame la misère, écoutez le silence qui entoure le lit des faits des magistrats. Le code de la peur se rime avec potence, il suffit de trouver quelques pendus d'avance. Et mon Dieu, ça ne manque pas.
Urbanité. Le sujet qui fâche.
Pauvre vient du latin pauper, nécessiteux. L'expression « pauperos » signifie « qui produit peu » et vise d'abord une terre ou un animal. On l'utilise comme équivalent d'indigent, et pauvreté est l'état de celui qui, ou de celle, qui manque de ressources. Mais longtemps dans la langue française, le mot « pauvre » n'était pas opposé à « riche », mais à « puissant ». Aujourd'hui, je dois penser que le pauvre cumule les deux. Il n'est pas riche et il n'est pas puissant. Pour en parler avec nous, Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas, France, depuis 2014, économiste de formation, spécialiste des pays en développement. Vous avez séjourné en Afghanistan il y a quelques années déjà. Vous rejoignez ensuite ADT Carmonde, devenez conseillère municipale de Bordeaux de 89 à 95, puis adjointe au maire Alain Juppé, chargée des politiques de solidarité jusqu'en 2014. Vous avez été également membre du Conseil national des villes et du Conseil national de lutte contre l'exclusion. Et Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, conseiller scientifique de l'École nationale supérieure de sécurité sociale, fondateur et dirigeant de la société de conseil Éclair, chroniqueur aux Échos et au Point, et puis rédacteur en chef de la revue Constructif. Tu viens de publier en février 2021 un excellent rapport, Pauvreté dans le monde, une baisse menacée par la crise sanitaire, à la demande de la Fondation pour l'innovation politique. Et l'on connaît tous, j'espère, tes nombreux ouvrages sur les SDF, les bidonvilles, la sécurité sociale, les classes moyennes, enfin, etc., etc. Véronique Fayet, donc je disais que vous avez commencé en tant qu'étudiante à travailler sur le tiers-monde. Est-ce qu'à cette époque, pour vous, la pauvreté s'était associée à ces pays dits en développement ? On peut noter en même temps que ces expressions ont disparu de notre vocabulaire. Tiers-monde et sous-développement, voilà.
Alors j'ai été étudiante il y a très longtemps quand même, c'est ça.
On est toujours un peu étudiant. Quand même.
Voilà, on est toujours en apprentissage. Mais effectivement, à l'époque, donc c'était 72-74, j'étais en fac d'économie à Nancy. Et effectivement, on parlait du tiers-monde. On commençait à parler des pays en voie de développement. C'était déjà un petit peu plus positif. Le tiers-monde, c'était quand même assez stigmatisant. Voilà. Mais on parlait assez peu de la pauvreté en France, d'ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. On était quand même sur la fin des Trente Glorieuses, donc tout allait quand même relativement bien. Et il y avait quand même des très pauvres, et ce sont des amis, effectivement, d'ATD Carmonde à Nancy qui m'ont fait découvrir cette réalité. Et j'avoue que je suis tombée des nues en disant « Mais quoi, il y a tant de pauvreté que ça en France ?» Et à l'époque, elle était extrêmement cachée. Et peu de temps après, on a commencé à parler des nouveaux pauvres, comme si c'était vraiment quelque chose qui apparaissait. Alors qu'en fait, ce que disait le père Brzezinski, c'est qu'il y a toujours eu des gens très pauvres dans la société française, mais qu'ils étaient totalement ignorés. Donc effectivement, dans mes études, j'étais plus orientée vers les pays pauvres, les pays en voie de développement. C'est pour ça que je suis partie en Afghanistan, que vers les personnes pauvres en France que j'ignorais à l'époque.
Mais pauvre, quand on va en Afghanistan, à cette époque-là, on est émerveillé par la richesse du pays.
Eh ben exactement. Parce qu'on arrive, j'avais 20 ans. Alors en Afghanistan, à l'époque, on était un peu perdus. Hein. Il n'y avait pas de téléphone, pas d'Internet, rien du tout. On écrivait des belles lettres manuscrites à nos parents. Et puis on passait par une opératrice quand on voulait passer un petit coup de fil. Donc c'était un petit peu loin de tout. Personne ne savait vraiment où c'était. Et donc moi, quand même, avec ma pauvre petite licence d'économie, je me disais, on va quand même leur apporter la bonne parole. Et donc voilà, j'ai pris une grande claque, comme on prend à 20 ans, en découvrant un pays pauvre, mais d'une dignité incroyable, avec beaucoup de solidarité familiale, pas de mendicité, très peu. Donc les gens étaient pris en charge par la famille. Donc une personne handicapée, âgée, était prise en charge par la collectivité familiale. Donc j'ai vraiment pris un plaisir immense pendant un an et demi à écouter vivre les Afghans, à essayer de comprendre un peu leur culture, à découvrir ce magnifique pays, à parler religion, à parler philosophie, à parler de tout ce qu'on pouvait parler avec nos quelques mots de persan à l'époque. Mais ça m'a appris que, justement, avant de pouvoir aider quiconque, aussi pauvre soit-il, il faut commencer par parler sa langue, voilà, au sens large, c'est-à-dire par comprendre qui il est, d'où il vient, quelles sont ses aspirations, quels sont ses rêves, quelles sont ses richesses. Et ça prend souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Et comment on passe du tiers-monde au quart-monde ?
Eh ben alors, en rentrant en France, effectivement, après l'Afghanistan, donc... Voilà, je me suis dit, bon, ben, on a voulu, avec mon mari, repartir comme coopérants à l'époque dans des pays en développement. Et puis on avait tous les deux des formations généralistes, Sciences Po, économie, etc. Et on nous a dit, ben non, nous, on veut que des techniciens, on veut des ingénieurs agronomes, des ingénieurs hydrauliques, je sais pas quoi, des médecins, mais voilà, des généralistes. Cette notion de chef de projet qui est très répandue aujourd'hui, ça n'existait pas du tout. Donc bon, ben voilà, on s'est dit, ben on va rester en France, voilà. Et puis donc moi, j'avais quand même chevillé au corps cette idée que voilà, j'avais quelque chose à rendre, entre guillemets, de tout ce que j'avais reçu, de mon éducation, de la chance que j'avais eu de faire des études et tout ça, en étant proche des personnes pauvres. Et donc ce sont mes amis d'ATD Quart-Monde qui m'ont mis sur la route, voilà, et qui m'ont orienté vers cette pauvreté existant en France. Et mon premier engagement, ça a été de coller des affiches pour les élections européennes, les premières élections européennes. Alors, c'était en quelle année ?
79,
c'est ça ? Ça doit être ça, 79. Et donc, il y avait la première liste d'intérêts civils, donc du coup, dans la région Est. C'était pas régionalisé à l'époque, d'ailleurs, dans lequel il y avait des volontaires d'ATD Quart-Monde, des militants écologistes, notamment d'Alsace, qui étaient très, très pro là-dessus, qui étaient très en avance. Il y avait des personnes handicapées. Il y avait une liste très, très originale. Et voilà, j'ai fait mon premier engagement politique et de lutte contre la pauvreté en collant quelques affiches pour la campagne européenne. Et puis après, voilà, je me suis engagée avec ATD Quart-Monde très, très vite dans des choses très, très concrètes.
Et ça veut dire quoi, ATD Quart-Monde ?
Alors, ATD Quart-Monde, donc c'est aide à toute détresse. Alors, à l'époque, c'était aide à toute détresse, c'était le nom que le père Brzezinski avait donné au départ.
En 1957,
voilà. Et puis, Quart-Monde, justement, Quart-Monde, ça, c'est le pendant du mot tiers-monde, un peu. C'était l'idée que le père Joseph avait reprise d'un historien qui lui avait expliqué que pendant la Révolution française, il y avait le tiers-État, mais il y avait aussi le quart-État, qui avait aussi fait des cahiers de doléances, mais qui étaient très peu connus, et qui étaient les vrais pauvres, parce que le tiers des États, c'était la bourgeoisie, donc les vrais pauvres, le quart-État, étaient déjà, à l'époque de la Révolution française, des gens qui avaient envie de parler, qui avaient des choses à dire, mais qu'on n'avait pas écouté. Donc ce terme de quart-monde, qui dans l'esprit de Brzezinski était extrêmement dynamique, c'était pas une étiquette sociologique, c'était des gens en marche, des gens qui se battent, des gens qui veulent retrouver leur dignité, comme le quart-État de la Révolution française. Voilà. Et alors maintenant, ATD, ça veut dire agir
pour toute dignité, tous, voilà, pour la
agir
dignité,
tous voilà. Pour la dignité, ou quelque chose comme ça. Parce que aide à toute détresse, ça faisait un peu vieillot, voilà. Mais donc ils ont gardé ATD par fidélité, ce que je trouve plutôt sympathique. Et donc c'est agir tous pour la dignité, et avec ce terme de quart-monde qui veut être l'expression d'une vraie dynamique.
Très très bien. Et Julien, alors pourquoi en 1974? Ça nous ramène loin, en arrière.
J'étais tout juste né. Voilà.
Où j'ai trouvé être publié deux ouvrages. Un de Lionel Stoléru intitulé « Vaincre la pauvreté dans les pays riches » et un de René Lenoir, « Les exclus ». Un Français sur deux.
Sur dix.
Un Français sur dix, oui.
Oui. Merci. Quand même.
Oui, sur deux, c'est un peu trop. Et le mot « exclu » maintenant est partout. Enfin, je veux dire, ça a été imposé très, très, très facilement. Alors pourquoi ces deux ouvrages très documentés, assez convaincants, n'ont pas été traduits par des décisions politiques ou par des actions qui auraient pu réduire le nombre des exclus alors, et des pauvres.
Tout de même, ils l'ont été traduits en réalisation, pas immédiatement, pas dans les années 70, encore qu'on pourrait discuter de transformation justement de la sécurité sociale et de la protection sociale dans cette période des années 70, avec la création de prestations sous conditions de ressources centrées sur les plus pauvres. Mais Lionel Stoléru, qui est cité, est un des papas du RMI. C'est-à-dire qu'il était à la manœuvre dans le gouvernement de Michel Rocard en 1988, lorsqu'est voté le revenu minimum d'insertion. Donc Lionel Stoléru titre « Vaincre la pauvreté dans les pays riches » cet ouvrage, parce qu'il sort d'un voyage aux États-Unis à une époque où encore les États-Unis considéraient être en guerre contre la pauvreté. Il avait beaucoup inventé en matière de lutte contre la pauvreté, avait même testé des systèmes qu'aujourd'hui on baptiserait de revenus universels dans certains des 50 États des États-Unis. Et à la manœuvre, donc en 1988, il fait voter le RMI, qu'aujourd'hui on regarde un peu de manière condescendante, on dit ça n'a pas marché, le I de RMI ça n'a pas marché, mais ça a été véritablement une révolution dans le système de protection sociale à la française. Quant à René Lenoir, puisqu'il est cité, lui a été à la manœuvre directeur d'administration centrale, terme bureaucratique pour dire que c'était un des chefs de l'administration sociale et qui a beaucoup œuvré pour les personnes handicapées, pour l'aide sociale à l'enfance, peut-être un peu moins dans le champ des prestations de lutte contre la pauvreté. Mais ces deux ouvrages ont eu leur influence, ils n'ont pas atteint leur objectif, l'objectif premier qui est dans le titre de Stoléru, vaincre la pauvreté.
Véronique, qu'est-ce que c'est que la pauvreté aujourd'hui? Comment on pourrait la caractériser?
Alors, c'est toujours difficile, et parce que en fait, alors on peut être pauvre sur le plan monétaire, avoir des revenus modestes, hein, et aujourd'hui en France, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont des revenus modestes, mais être bien inséré, avoir des amis, des relations, des aides et tout ça. J'ai toujours le souvenir de deux bénévoles au Secours catholique avec qui on parlait des revenus dont bénéficient les personnes qui ont le RSA, et elles finissent par me dire, ben, nous, on n'est pas loin de ça. Et donc, c'était deux femmes veuves, toutes les deux, avec des pensions de réversion de l'ordre de 700 euros ou peut-être 800 par mois, donc des tout petits revenus en dessous du seuil de pauvreté. Mais des femmes très bien insérées parce qu'elles se sentaient utiles, parce que l'une avait une copine qui la logeait, l'autre, c'était sa fille. Voilà. Et donc, des femmes très joyeuses, très insérées et qui ne se reconnaissaient pas du tout comme pauvres, si ce n'est peut-être une pauvreté évangélique éventuellement. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire la distinction, et je pense que effectivement un des premiers à bien définir les choses, ça a quand même été Wresinski dans son rapport au Conseil économique et social, enfin le rapport du Conseil économique et social qu'il a piloté en 1987, dans lequel il définit la pauvreté comme touchant différents domaines de la vie, donc le logement, l'absence d'emploi, l'absence d'éducation, les problèmes de santé, etc. Donc des problèmes qui se cumulent et qui durent, qui se vivent dans la durée, ce qui fait que les gens s'enfoncent petit à petit dans ce qu'il faut appeler très vite la misère. Voilà. Et la misère, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus que la pauvreté, parce que on voit que c'est multidimensionnel et que surtout, après, ça génère un sentiment de culpabilité chez les gens qui se croient responsables, parce que le regard de la société leur renvoie des tas de choses négatives. Donc il y a le sentiment de honte, de culpabilité, etc., qui vient se greffer là-dessus. Donc je crois qu'il faut distinguer la question de la pauvreté de la misère, et surtout voir toujours cet aspect multidimensionnel qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive plus à en sortir. Voilà. On n'arrive plus à en sortir parce que même si on retrouve un logement, ben, on n'a pas la formation suffisante pour retrouver un emploi. Donc on a des difficultés à garder le logement. Puis on a eu des problèmes de santé qui se sont accumulés, etc. etc. Voilà. Donc c'est ce cumul de difficultés dans la durée et le regard de la société qui vous juge, qui génère de la honte, soit qui fait que tout ça fait un sentiment d'exclusion extrêmement fort. Le sentiment d'être hors du monde, en fait.
Dans Éliminer la pauvreté, Julien, en 2010, tu expliques que la pauvreté est l'affaire à la fois de niveau de vie, de conditions de vie et de qualité de vie. C'est un peu ce que Véronique vient de dire. Mais est-ce que tu peux revenir sur chacune de ces expressions?
Surtout que c'est joliment dit, j'en suis tout content, ça rime par « i ». Niveau de vie, c'est les ressources, les revenus. Les conditions de vie qui sont corrélées aux revenus, mais qui peuvent faire qu'avec de faibles revenus, si on possède son logement aux zones rurales et agréables, on n'aura jamais le sentiment d'être en gigantesque difficulté comme peuvent l'être des gens avec des revenus plus élevés en zone urbaine. Et la troisième dimension après niveau de vie et conditions de vie, c'est la qualité de vie, avec cette approche subjective première qui est de se demander si oui ou non on considère que notre vie est bonne à vivre. Donc je crois qu'il faut toujours regarder ça sur ces trois dimensions, des dimensions subjectives, des dimensions purement monétaire et des dimensions, Véronique l'a dit, multidimensionnelles sur ce qui fait l'ensemble de nos conditions de vie.
Alors comment apprécier cette idée que on est pauvre en dessous de 1,9 $ de revenus par jour?
Alors ça, c'est le seuil de pauvreté qui a été façonné par la Banque mondiale, qui en France fait toujours un peu sourire de façon narquoise. Mais je précise qu'il y a des centaines de millions de personnes qui dans le monde sont dans cette situation. C'est techniquement compliqué parce que c'est pas 1,9 $ monétaire ou en deux billets de 1 $ vert. Ce sont des capacités de pouvoir d'achat. Donc est compté comme pauvre dans le monde par la Banque mondiale quelqu'un qui a une capacité de consommation qui est la même que celle d'un Américain avec 1,9 dollars. Donc ça n'existe pas en France du point de vue de la Banque mondiale, même si d'ailleurs je pense que c'est discutable au regard de certaines conditions de dénuement extrême. C'est une mesure de l'extrême pauvreté. Et nous avons, alors, en série chronologique dans le temps, près de la moitié de l'humanité qui était comptée comme pauvre en la matière, pas au Moyen-Âge, d'abord parce qu'on n'avait pas les statistiques, mais au début des années 1980. Aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au choc Covid, vous aviez un tout petit peu moins de 10% de la population mondiale. Mais un tout petit peu moins de 10% de la population mondiale, c'est autour de 700 millions de personnes. Un des sujets contemporains et à venir, c'est que la crise économique consécutive à la crise sanitaire a déjà provoqué quelque chose d'extraordinairement négatif. C'est que la pauvreté, à cette aune de 1,9 dollars par jour en capacité de pouvoir d'achat, baissait régulièrement. Le monde était peut-être même un peu trop euphorique en la matière ou trop optimiste. Eh bien, ça a déjà repris à la hausse. Alors, les statistiques, on peut se bagarrer longuement sur de quoi on parle. Mais avec cet indicateur, c'est rien que pour 2020, peut-être 200 millions de personnes en plus, sous ce seuil de pauvreté. Avec d'autres approches en indicateurs multidimensionnels, c'est 500 millions de pauvres en plus, 1,5 milliard de personnes pauvres en plus. Il y a toujours plein de bagarres sur les indicateurs. Le seuil de 1,9 dollars, qui est même critiqué par ceux qui l'ont façonné, il y a plein de prix Nobel d'économie qui se tirent les cerveaux, les oreilles sur la question, reste à mon avis un seuil qu'il faut prendre en considération, parce que c'est l'extrême dénuement. Oui.
Et alors, cette... Là, je reviens aux trois notions qui sont essentielles à entremêler. Est-ce que on peut donner une dimension géographique à ces trois dimensions-là? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une pauvreté rurale, par exemple, plus importante qu'une pauvreté urbaine dans les pays anciennement appelés du tiers-monde et dans le cas de l'Europe? Ou est-ce qu'au contraire, on peut plus facilement mesurer, repérer et que les gens eux-mêmes se considèrent comme étant en état d'exclusion davantage dans une ville qu'à la campagne, parce que là, ils bénéficieraient peut-être de relations familiales un peu plus d'entraide ou de solidarité.
Alors, pour en dire un mot géographique et très global, à partir des indicateurs monétaires et à partir des sources de données dont on dispose, quelque chose qui va intéresser Thierry Pacaud, mais il le sait, c'est que si on regarde cette pauvreté extrême dans le monde, la pauvreté dans le monde est d'abord rurale, alors que nous sommes dans un univers où nous sommes de plus en plus urbains. Certains, dont Thierry, pensent même que nous sommes tous urbains. Ce n'est pas le sujet, là, ça, c'est la note de bas de page. Mais globalement, la pauvreté est d'abord un sujet rural dans le monde. Alors, il faut le dire plus précisément, dans les pays pauvres, la pauvreté est encore un problème qui est d'abord rural. Dans les pays riches, la pauvreté est d'abord un sujet urbain. Dans l'Union européenne, où il n'y a pas de pays très pauvres, mais où il y a des pays bien plus pauvres que d'autres, en Bulgarie et en Roumanie, la pauvreté est encore d'abord un phénomène rural. Mais en France, quoi que l'on puisse imaginer parfois, sur certains départements où les difficultés s'accumulent en zone rurale, la pauvreté est d'abord un phénomène urbain. Le département le plus pauvre de France, au-delà des Outre-mer et de Mayotte en particulier, c'est la Seine-Saint-Denis et de très loin.
Véronique, vous constatez la même chose?
Oui, alors je voudrais revenir peut-être à la dimension internationale, oui. Parce que c'est intéressant aussi, parce qu'on a, le Secours catholique a participé à une étude internationale très intéressante, pilotée par l'Université d'Oxford et à l'initiative d'ATD CarMonde, dans 5 pays du monde, extrêmement différents, puisque ça allait des États-Unis à la Tanzanie, en passant par la Colombie, le Royaume-Uni, la France, et peut-être j'en oublie un, peut-être 6, en fait. Et donc l'idée, c'était de voir... Quelles sont les dimensions de la pauvreté dans tous ces pays aussi différents? Parce que en Tanzanie, je me souviens, les femmes qui étaient interrogées, c'était des femmes qui cassaient des cailloux à la main dans une gigantesque mine d'extraction de je ne sais quel minerai. Enfin, bon, la pauvreté extrême comme on la vit encore en Tanzanie. Aux États-Unis, c'était bien différent. Et en France, c'était encore différent aussi. Voilà. Et donc, quelles sont les dimensions de la pauvreté? Et finalement, le constat de cette étude qui a été faite avec des personnes qui vraiment vivaient la pauvreté dans chacun de ces pays, et chaque fois avec une université partenaire, et avec... Il y avait 3 acteurs, en fait. Il y avait des personnes en très grande pauvreté, des professionnels du social, au sens large, bénévoles ou salariés ou travailleurs sociaux, et des universitaires. Et dans tous les pays du monde, ce qui vient en premier, c'est la maltraitance sociale, c'est-à-dire le regard des autres. Donc ce qui fait le plus souffrir, C'est pas forcément le manque de revenus monétaires, c'est le regard des autres qui vous exclut, qui vous rejette, qui vous met au banc de la société, et la maltraitance institutionnelle. Et donc, ça veut dire les institutions qui devraient normalement protéger vos droits, vous permettre d'accéder à des droits en matière de santé, de revenus, de travail, etc., qui, en fait, ne vous répondent pas, vous jugent, vous traitent comme des numéros, etc. Voilà. Et donc, ils ont identifié comme ça 9 dimensions de la pauvreté qui sont vraiment universelles, puisque... Dans tous les pays du monde, on retrouve les mêmes constantes avec, c'est quand même très très frappant, cette souffrance par rapport à la maltraitance sociale, la maltraitance institutionnelle. Et donc ça, ben on pourrait aussi le décliner en France en disant, bon, pauvreté urbaine, rurale, oui, il y a des constantes, il y a des chiffres, bon, ok. Mais finalement, ce qui réunit les gens, c'est la façon dont ils sont rejetés et dont ils se sentent rejetés, dont ils se sentent traités de feignants, de profiteurs, de voilà.
Oui, donc en même temps, on apprend bien souvent que les plus démunis sont aussi souvent les moins bien informés sur leurs propres droits.
Mais bien sûr. Et puis là,
il ne bénéficie pas du tout.
De pire en pire avec la crise sanitaire. Il n'y a plus personne dans les administrations. Il n'y a que des répondeurs. Voilà. On vient de faire nous un rapport au Secours catholique sur le non-recours. Le non-recours, il est dû à tout ça, au fait que les administrations perdent votre dossier, puis c'est vous qui vous faites engueuler, ou on n'arrive jamais à joindre la personne, ou on finit par se décourager, ou alors on n'a pas rempli le bon papier, donc on est sanctionné, on vous supprime la totalité ou une partie du RSA, donc les gens ils disent, bon, bah, puisque c'est comme ça, je ne vais plus y toucher, voilà. Et donc on arrive au fait qu'en France, on a à peu près 30% des personnes qui devraient toucher le RSA qui ne le touchent pas. Donc c'est de la maltraitance institutionnelle collective, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'assurer aux personnes qui normalement y auraient droit, selon la loi, de leur assurer ce revenu minimum, parce qu'on est vraiment dans un minimum pour ne pas mourir de faim.
Et comment faire ?
Alors il y a plusieurs pistes que l'on travaille. D'abord, faire confiance a priori aux gens. Quand on vous parle de l'ISF ou de l'IFI, feu, l'ISF ou IFI, on fait confiance a priori aux citoyens, on dit, c'est déclaratif, et on vous fera des contrôles après. Le RSA, a priori, c'est la défiance. On ne vous fait pas confiance, vous devez prouver que vous êtes pauvre, donc vous devez fournir des tas de papiers, parfois très compliqués, notamment, j'ai vu un cas d'un gars qui a été auto-entrepreneur, donc inscrit peut-être en registre du commerce, je ne me souviens plus des détails, mais qui a dû prouver qu'il était très pauvre pour avoir le RSA, parce qu'à cause du Covid, son activité s'est arrêtée. Et il a été 3 mois sans rien, parce qu'il n'arrivait pas à prouver qu'il n'avait plus de ressources. Donc on ne vous fait pas confiance a priori, donc vous devez prouver, vous devez faire des dossiers que vous perdez ou des dossiers qui se perdent. Enfin bon, c'est extrêmement compliqué. Ou si vous ne remplissez pas correctement une feuille, on vous supprime le RSA. Donc il n'y a pas cet a priori de confiance avec une automaticité des droits. Ça serait tellement plus simple. Vous demandez, vous êtes pauvre, on vous l'accorde immédiatement. Et on fera des contrôles. Bien sûr, il ne s'agit pas de pas faire de contrôle, parce qu'il y a des fraudeurs partout. Il y a des fraudeurs à l'IFI, à l'ISF, à l'impôt sur le revenu. Il y a des fraudeurs au RSA. Ça, on n'est pas complètement naïf. Mais voilà, cette automaticité des droits, même les travailleurs sociaux disent que ça nous simplifierait la vie, parce qu'on serait tout de suite dans un dialogue sur l'insertion des personnes, comme on le faisait dans le RMI, qui avait pour moi beaucoup de vertus, c'est-à-dire quel est votre projet d'insertion, quel contrat d'insertion on va pouvoir signer ensemble, au lieu de vérifier des papiers administratifs. Voilà. Donc faire confiance, cet a priori de confiance, ça, on n'a pas ça, malheureusement, à l'égard des très pauvres en France.
Et ça veut dire aussi, du coup, un petit peu former le personnel administratif qui travaille avec les pauvres. Pour qu'ils soient justement à leur écoute, qu'ils soient à leur attention, et non pas simplement avec un réflexe bureaucratique, il me faut tel et tel papier, vous les avez pas.
Oui, alors je crois que les travailleurs sociaux, ils sont de bonne volonté, ils ne demandent que ça.
Ils demandent que ça.
Justement,
oui,
de sortir, hein, parce que je crois qu'ils étouffent, ils en meurent d'être réduits à être justement à des fonctions de référent administratif, parce qu'il faut faire un dossier pour le RSA, il faut faire un dossier pour le DALO, le droit au logement opposable, il faut faire un dossier peut-être éventuellement pour une autre allocation, pour un dossier aussi HLM. Enfin bon, donc
oui, les aides scolaires, la campagne.
Voilà. Donc je crois que c'est quand même une souffrance des travailleurs sociaux de dire on est fait pour des métiers de l'humain, on est fait pour accompagner les gens, pour être en confiance avec eux, pour les faire grandir dans le meilleur sens du terme. Et en fait, bon, bah, on en est réduit à faire des contrôles, à faire de la paperasse. Donc je pense que les travailleurs sociaux de ceux que je rencontre, ils aspirent à quelque chose qui soit plus léger, plus fluide, et encore une fois, qui n'exclut pas des contrôles. Mais ça, on sait très bien faire. Hein. La caisse d'allocation familiale, c'est très très bien faire les contrôles. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Julien, est-ce que ça veut dire aussi que du coup, là, il faudrait décentraliser encore plus ? Ah.
Alors, un adage simple, c'est que, et on le sait depuis des décennies, plus la misère est élevée, plus la bureaucratie est lourde. Le problème, c'est qu'elle est de plus en plus lourde. Dans l'étude qui était citée par Véronique, j'avais participé à sa restitution à l'OCDE, c'est dire si ces études ont quand même un impact. Ce qui était vraiment mis en avant, c'est l'originalité de ce travail, dans les 8 ou 9 dimensions de la pauvreté, c'est cette maltraitance institutionnelle dont tout le monde a bien conscience, mais que l'on a du mal à quantifier. Qu'en est-il dans le contexte français aujourd'hui ? Ben, c'est un, pardon pour le vocabulaire, mais c'est un souk absolu. Personne ne comprend rien au système des prestations. Quand je dis personne, c'est un peu forcé. Mais prenons trois grandes personnes. Il y a la personne concernée, c'est incompréhensible. Il y a le gestionnaire des droits. Lui non plus ne comprend pas dans le détail ce qu'est à l'intérieur du calcul et du barème de telle ou telle prestation. Quant aux experts, bon, ils sont contents parce que ça leur donne de quoi faire des articles et des discussions. Et je suis dans la bande, donc je suis content de cela. Par rapport à la question de la décentralisation, qui est une question importante, personnellement, je plaide au contraire pour la centralisation totale des prestations et, à l'inverse, pour la décentralisation de ce travail social et de cet accompagnement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le RSA, aujourd'hui, est une prestation qui est financée et gérée en partie par les départements. C'est pour un thème encore simple de la guignolerie. Voilà, il faudrait que c'est une prestation qui est à barème national, il faudrait qu'elle soit comme toutes les autres prestations gérées nationalement par même des usines de production. Il faut que nos ordinateurs nous permettent de sortir les difficultés des gens plutôt que ce soit les gens qui passent leur temps à amener des papiers comme Véronique pouvait le décrire. La simplification du droit passe par l'usage optimisé de nos systèmes d'information. Et c'est pas simplement de la réclamation comme De Gaulle qui serait là en train de parler de l'Europe, et d'autres qui seraient en train de dire simplification, c'est que d'autres le font, et pas des gens très différents. Hein. En Belgique, vous avez une carte d'identité dans laquelle vous avez votre carte vitale, c'est-à-dire votre carte de sécurité sociale, votre permis de conduire, vos droits sociaux qui vont de votre équivalent du RSA au minimum vieillesse et à l'ensemble du système de retraite. En France, c'est toujours totalement éparpillé. Alors, plein de bonnes raisons pour cela, sous contrôle CNIL, par exemple, mais maintenant que nous avons un règlement de sécurité de nos données personnelles qui est européen, ça devrait être la même chose en Belgique et en France. Donc on peut vraiment améliorer la gestion des droits, mais ça, il faut que ce soit à l'échelle nationale. On n'a même pas besoin de CAF de chaque département pour gérer des prestations nationales. En revanche, ce dont nous avons besoin à l'échelle des territoires, des écorégions par exemple, ou des départements ou des grandes municipalités, c'est que ces territoires aient la main pour accompagner les personnes qui sont en difficulté sur leur territoire. Donc je pense qu'il faut une centralisation des prestations et une décentralisation radicale de l'accompagnement.
Ce qui lui donnerait une plus grande efficacité, évidemment.
Alors, c'est ce qui serait visé. Il y a plein d'arguments, contre-arguments pour dire « Ah oui, mais quand même la gestion des prestations, ça doit l'adapter au territoire. Ah oui, mais si vous décentralisez trop, il y aura plein d'inégalités. » De toutes les manières, il y en a déjà plein. Oui. Donc, je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions. Je pense que c'est un schéma clair et que c'est ce qui manque dans le brouillard dans lequel peuvent se trouver à la fois les gens qui s'occupent de la doctrine, les gens, c'est pire, qui gèrent les prestations, et là où c'est terrible, les gens qui doivent en bénéficier.
Alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup, Julien le sait évidemment, mais pas Véronique, c'est Ivan Illich. Et il se trouve que j'ai eu la chance de très bien le connaître. Et Ivan Illich avait théorisé justement la pauvreté moderne. C'est-à-dire que la pauvreté moderne, c'est la situation dans laquelle se trouve quelqu'un qui est tellement tributaire d'assistances diverses qu'il ne peut avoir recours qu'à une aide d'un travailleur social, on va l'appeler comme ça pour simplifier, et ensuite d'acquisition de ses biens, et indispensable pour sa survie, sur le marché. Donc tout d'un coup, il y avait là une sorte de dépréciation de toute la production domestique ou vernaculaire, qui fait que le pauvre à l'ancienne, j'allais dire, était devenu un pauvre moderne, c'est-à-dire dépendant à la fois de l'administration d'une part et d'autre part du marché. Et donc dépossédé de son autonomie. Je prendrai l'exemple que Ivan Illich mentionnait, celle de l'autoconstruction, par exemple. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut encore observer et qui va, même avec les réglementations européennes, par exemple, se conforter, quoi, dans cette direction-là ? C'est-à-dire qu'être pauvre, c'est être encore plus dépendant qu'auparavant des autres.
Il y a une définition sociologique de la pauvreté plus ancienne que l'approche à la Ivan Illich, qui est l'approche presque classique maintenant de Jörg Simmel. Oui. Au tout début du XXe siècle, il explique, c'est une voie de travail sur la pauvreté, que les pauvres sont ceux qui sont pris en charge par l'administration ou qui devraient l'être. C'est le sujet du non-recours qu'évoque Véronique. Et il y a un auteur encore plus ancien du siècle précédent qui va vous dire oui, mais donc les pauvres, c'est ceux qui sont en situation de dépendance tutélaire, et c'est Tocqueville. Alors je ne sais pas exactement ce qu'avait à l'esprit Ivan Illich, mais ce qui est exact, c'est que nous avons des systèmes de prise en charge qui s'étendent. Personnellement, je pense que c'est heureux. Hein, j'évoquais le RMI qui, pour moi, est une des principales transformations de notre système de protection sociale. Le problème, c'est que ce qui est en place et ce qui est globalement généreux. Qui est globalement généreux. Si on regarde les dépenses sociales françaises, ça nous place au premier rang mondial, etc., etc. Mais ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien au regard de tous les trous dans le système. Donc on a à la fois les défauts d'un système qui est trop tutélaire, qui, dans une certaine mesure, déshumanise les pauvres, c'est même le moins que l'on puisse dire, et en plus de déficits sociaux abyssaux qu'il est difficile de combler. Une voie pour transformer ça, qui est facile de plaider autour d'un micro, c'est de simplifier le système.
Alors, Illich, lui, voulait simplement dire, je me suis peut-être un peu mal exprimé, il voulait simplement dire que plus on fait confiance aux pauvres pour sortir de la pauvreté, mieux c'est.
Oui. Mais oui, ça oui.
C'est-à-dire que c'est donc au lieu de dire voilà, vous avez droit à ceci ou à cela, peut-être avoir une aide. Alors, je vais rêver un peu, une aide à la carte. C'est-à-dire une aide qui dépend évidemment de ce que ce pauvre, parce qu'aucun pauvre ne ressemble à un autre. Dans sa situation familiale, dans son âge, dans le cumul des autres difficultés, comme une maladie, comme la perte de l'emploi, comme l'absence de qualification, etc. Donc, avoir cette espèce de soutien, c'est-à-dire, d'une certaine manière, et là je reviens à l'intitulé de l'institution à laquelle participe Véronique, il y a quand même Caritas. Caritas, c'est la charité, c'est l'agapé grec. Hein, qui, bon, et donc, est-ce qu'on n'a pas un peu perdu ce sens du mot charité qui, en français, a donné ce si beau verbe « chérir » ?
Ah, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que charité, c'est devenu péjoratif.
Et oui.
On fait la charité. Donc pour moi, effectivement, la charité, c'est l'amour. C'est l'amour désintéressé.
C'est l'agapé, un des quatre termes pour dire amour, oui. En grec.
Et donc, et notre fondateur, là, le père Jean Rodin, disait que la charité en acte, donc par des tout petits gestes quotidiens, a la puissance d'une bombe atomique. Parce que c'est contagieux, voilà, comme une fraction de l'atome, c'est contagieux. Et effectivement, à la limite, lui se disait que si chacun était charitable, au sens d'amour, avec son voisin, avec le plus fragile, une personne handicapée, une personne âgée, etc., eh ben voilà, la société vivrait en harmonie. Et il y aurait sans doute toujours des pauvres au sens monétaire, mais des gens qui seraient inclus dans un voisinage, dans des relations sociales, et donc voilà, qui auraient une vie bonne. Voilà. Et donc, mais parce que sur cette question de la dépendance, c'est quand même étonnant que on en parle pour les pauvres et qu'on n'en parle pas pour nous. Moi, je suis dépendante du système de protection sociale, la sécurité sociale, le système de retraite. Je suis étroitement dépendante du système. On l'est
tous. Du système scolaire.
Voilà, de tout. J'ai bénéficié de formation universitaire. Voilà. Donc, on est tous dépendants de système de protection sociale qu'on a voulu au fil des années, notamment au sortir de la guerre. Voilà. Mais alors, pour tout un chacun, bah, c'est normal, c'est la solidarité nationale. Mais pour les pauvres, on dit ah oui, mais eux, ils sont assistés. Voilà. Ils sont profiteurs, ils en profitent. Et je pense que un pauvre coûte moins cher qu'une grosse retraite d'un cadre retraité qui a une retraite substantielle.
Confortable. Bah, ça coûte,
voilà. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse bien attention à ce qu'on dit. On est tous dépendants du système de protection sociale, et tant mieux. Voilà, les pauvres aussi, et il n'y a pas de raison de les traiter d'assistés. Et il faut surtout entendre leur voix. Là aussi, on a conduit tout un travail de recherche sur la protection sociale avec des personnes en grande difficulté qui disent bah oui, nous, on veut être protégés, bah, c'est sûr, comme tout le monde, mais on veut contribuer à la société. Et on veut surtout que notre contribution soit reconnue, parce qu'on contribue beaucoup au bien commun. On est engagé dans des associations, au Secours catholique ou ailleurs. On s'occupe d'un enfant handicapé qu'on garde à la maison. Et voilà, il y a une des deux personnes du couple qui ne travaille pas pour garder cet enfant parce qu'on n'a pas su se faufiler dans les filières qui permettent d'avoir accès à des instituts spécialisés pour les personnes handicapées. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas de place, c'est les familles les plus pauvres. Donc, elles gardent les enfants à la maison, ce qui est une contribution au bien commun considérable, de même pour une personne âgée. Enfin, elles contribuent de mille et une manières à la société, et ce n'est jamais reconnu. Et on les traite d'assistés, de feignants, de profiteurs. Et c'est ça qui est une grande violence pour eux, et une grande souffrance, de dire on est comme tout le monde, on veut juste être protégé et qu'on reconnaisse nos contributions. Et puis même, on veut contribuer plus s'il faut. On veut contribuer par un travail. Et la très belle expérience des territoires zéro chômeur de longue durée, donc sur 10 territoires pour l'instant, qui est encore assez limité, mais montre bien, d'une part, que nul n'est inemployable, que la plupart des gens arrivent à se sortir de, justement, de cet état d'apathie dans lequel ils étaient enfermés parce qu'ils étaient au chômage depuis 3, 4, 5 ans et qu'ils n'avaient plus aucune confiance en eux, plus le sentiment de ne plus avoir aucune compétence, que personne ne les attendait, qu'ils étaient vraiment totalement inutiles. Et on voit des vraies résurrections, quoi, des gens qui se remettent à travailler, qui se remettent à se passionner et qui donc apportent une vraie contribution. Pour un SMIC, c'est pas non plus financièrement tellement plus intéressant que les allocations qu'ils avaient auparavant, mais la fierté, le bonheur de travailler, de contribuer, leur donne des ailes. Donc on voit bien qu'il y a ce désir très fort de contribuer et que c'est ça qui remet les gens debout.
On le voit très bien dans le film La Grande Cordée de Marie-Monique Robin,
oui.
Qui montre des gens, on le voit au fur et à mesure que les mois passent.
On les reconnaît même pas physiquement.
Ils sont métamorphosés.
C'est incroyable. Physiquement, on les reconnaît pas. Ouais.
Il faut toujours un premier de cordée aussi. Mais ça, c'est un autre sujet.
Ça, c'est la provocation.
J'en ai une autre
Julien.
En stock. Les experts de la pauvreté, ce sont d'abord les pauvres. C'est une phrase qui se discute, qui fait un peu slogan, mais je pense qu'elle est d'abord fondée et vraie. Je ferai une remarque sur ce qu'a dit Véronique. Je pense qu'il faut quand même distinguer dans la protection sociale, ce qui est précisément contributif, les retraites, c'est des formes d'assurance. Le sujet de la pauvreté, s'il fait tant débat, c'est parce qu'il n'est pas financé par des contributions. On appelle ça aide et action sociale, mais en fait, le mécanisme, c'est bien l'assistance. Et cette assistance, que l'on pourrait même être dite de la charité publique, c'est très bien. Ce qui est embêtant, c'est que c'est mal vu. Alors, sur la question qui était posée par Thierry, faire confiance aux pauvres, qu'est-ce que cela pourrait dire ? Un truc que j'aime bien raconter et que je pense nous pourrions tenter de mettre en œuvre. Un centre d'hébergement de long terme, ça coûte plus de 1000 euros par mois pour la personne qui est ainsi hébergée. Si on lui donnait le choix entre toucher ce millier d'euros ou rester dans le centre dans lequel elle se trouve, je pense que certaines de ces personnes diraient « donnez-moi ces sous, je sais mieux ce que je pourrais en faire pour moi et probablement je trouverai un meilleur logement ». C'est une forme de provocation, surtout sur Radio Immo. Du côté, de l'autre côté de la Manche, ils l'ont tenté, avec des sans-abri qui vivaient complètement dans la rue, d'ailleurs, en les dotant de sommes substantielles, et il apparaît qu'ils arrivent à s'en sortir. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, c'est même le moins que l'on puisse dire, mais à leur faire confiance, à écouter leur projet, à leur en donner les moyens, ça passe parfois mieux que par toutes nos courroies bureaucratiques.
Oui, oui, mais moi je me souviens, à l'aide d'Ivan Illich, j'avais été voir à Philadelphie un prêtre qui montait à Temple, c'est le quartier de Philadelphie où il y avait beaucoup de SDF, de homeless. Il avait mis sur pied un chantier école pour construire un logement. Et c'était les homeless eux-mêmes qui avaient dessiné leur logement et puis qui avaient appris la maçonnerie, l'électricité, etc. Et 10 ans plus tard, ils étaient encore présents là. Et ils avaient repris confiance en eux. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de coût.
Par rapport à la question précise, c'est vrai qu'en France, il y a eu ce mouvement d'autoconstruction que Thierry connaît très bien, les castors, historiquement. Bon, et pour continuer la réponse à la question qui a été posée, qui, à mon avis, serait totalement impossible à mettre en œuvre, pour des raisons, là, pleinement administratives, d'obligations générales, de permis de construire, de normes, de compétences même des gens, de compétences, sinon de compétences du moins, de qualifications qui seraient nécessaires pour les personnes. Peut-être faut-il tenter d'amoindrir ces normes. Tout le monde le répète depuis des années. Il y a plein de sujets comme ça. On dit il faut, on va. Mais comme on le fait jamais, ben finalement, on n'y arrive pas, c'est vrai.
Un dernier mot, Véronique ?
Ben, la confiance. Je vous écoutais et je pense que voilà, il faut rester sur ce beau mot de confiance. Se faire confiance à tout le monde, faire confiance aux plus riches en leur disant ben, soyez contributifs, voilà, soyez solidaires et puis surtout faire confiance aux plus pauvres. En sachant que c'est comme ça qu'ils vont retrouver leur dignité et leur place dans la société, tout simplement.
Merci bien.
Se retrouver dans la rue, pas difficile. Honte de sa main tendue, pas difficile. C'est comme l'envers d'un jeu, une cascade, où on glisse peu à peu des gringolades. Il suffit d'un matin gris bien ordinaire, d'une lettre qui vous dit y a rien à faire. On ne peut plus vous garder, on ne peut plus vous loger, on ne peut plus vous aimer, il faudra vous débrouiller seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse. J'y pense. Dormir sur un coin de quai, pas difficile. Une inscription à la craie, pas difficile. Plus de maison, plus de chaud et plus de place. On ne donne pas de boulot à cette crasse. Plus de boulot, plus de sous et plus de piole. C'est une histoire de fou, pas vraiment drôle. On ne peut pas vous laisser, car le métro va fermer. On ne peut rien vous donner pour que vous alliez vous saouler seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense. Se retrouver en prison, pas difficile. Votre mère avait raison, pas difficile. Prendre un peu ce qui est là, qui fait envie, et qu'on ne vous donne pas, vive la vie. Ou glisser sans le savoir, drôle de drame, au filet du désespoir pour quelques grammes. On ne peut pas vous donner, on ne peut pas vous soigner, on ne peut pas vous pardonner, faudra vous habituer seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense. Passer sans se retourner, c'est trop facile. Dire qu'on n'a pas à donner, c'est trop facile. Penser qu'on est différent parce qu'on est propre. Quand le malheur mécontent nous apostrophe, c'est ignorer qu'un matin, demain peut-être, on peut la tenir en main, la triste lettre. On ne peut plus vous garder, on ne peut plus vous loger, on ne peut plus vous aimer, il faudra vous débrouiller seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse. J'y pense.
Urbanité. Une émission en partenariat avec Terre Urbaine à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.